France Musique. Musicopolis. Louis Moreau Gottschalk, compositeur et voyageur. En décembre 1862, Louis Moreau Gottschalk écrit dans son journal « Je viens de finir ma dernière tournée pour la saison. J'ai donné 85 concerts en 4 mois et demi. J'ai fait 25 000 km en chemin de fer. Encore quelques semaines comme celle-là et je serais devenu idiot. 18 heures par jour dans le train. Arriver à 7 heures du soir, manger à toute vitesse, apparaître à 8 heures devant le public, la dernière note finie, vite se hâter pour reprendre les bagages. » Et en route jusqu'au lendemain pour recommencer toujours la même chose. Je deviens stupide. Je ressemble à un automate mu par une pile voltaïque. Mes doigts bougent sur le clavier avec une chaleur fiévreuse. La vue d'un piano me fait dresser les cheveux sur la tête comme la victime devant la roue sur laquelle on va la torturer. Pendant que mes doigts bougent, mon esprit est ailleurs. Plus heureux que ma pauvre machine, il traverse l'espace et voit à nouveau ses chères Antilles, où je donnais tranquillement un petit concert tous les 2 ou 3 mois, confortablement, sans me fatiguer, où je dormais pendant des semaines du soleil de l'esprit, si délicieux, si poétique, au milieu de l'atmosphère voluptueuse et amollissante de ces terres heureuses du doux Farniente, là où les brises paresseuses, en murmurant doucement, portent sur leurs ailes les harmonies languides et lointaines du pays, là où les oiseaux, calmes et rêveurs, semblent ne jamais s'arracher à la contemplation de toutes les merveilles de ce paradis terrestre, sauf pour aimer et pour dormir. À lire Louis Moreau Gottschalk se plaindre de ses tournées et évoquer avec tant de poésie la paresseuse quiétude des îles, on se demande s'il n'était pas plutôt fait pour une vie retirée que pour celle d'un virtuose itinérant. Peut-être d'ailleurs s'est-il posé lui-même la question, mais si on examine sa biographie, apparemment il n'a pas tranché. C'est peut-être d'avoir commencé si jeune les voyages qui l'a rendu intranquille. Louis Moreau Gottschalk, qu'on appelle seulement Moreau à la maison, est né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en 1829. Il a des origines multiples par ses parents. Son père, né à Londres, vient d'Allemagne, et sa mère, issue d'une famille noble française, vient de Saint-Domingue. La Nouvelle-Orléans est une ville cosmopolite et multiraciale, et sa musique se compose aussi bien de chants d'esclaves africains que de mélopées amérindiennes et de contredanses européennes. Le jeune Gottschalk va faire son miel de toutes ces influences différentes. Moreau Gottschalk est un véritable enfant prodige qui effraie même sa mère lorsque pour la première fois il reproduit sur le piano la mélodie qu'elle vient de chanter. Il a 3 ans. Elle sera son premier professeur. Lorsqu'il a 5 ans, on demande à l'organiste et maître de chapelle de la cathédrale de lui donner des leçons. À 7 ans, il peut remplacer son maître à la tribune de l'orgue. À 11 ans, il donne un grand concert dans la salle de l'hôtel Saint-Charles. En deuxième partie, il improvise sur les airs d'opéra à la mode. Son père voudrait qu'il ait la meilleure éducation musicale possible. Moreau n'a pas encore 12 ans qu'il est sur un bateau en partance pour la France. Il retrouvera la famille de sa mère à Paris. On ne veut pas d'Américains au conservatoire, mais il trouve de bons professeurs en ville. À 15 ans, il est présenté au public dans un grand concert donné Salle Pleyel. Pour son concert de début à Paris, Moreau Gottschalk a commencé par le concerto en mi mineur de Chopin. Puis il a joué la fantaisie sur Sémiramis de Thalberg et celle de Liszt sur Robert le Diable. Chopin, en personne, a félicité le jeune homme, prophétisant qu'il deviendrait le roi des pianistes. Il a été, disent les journaux, un interprète aussi chaleureux qu'élégant, aussi ferme et net que brillant et expressif. Il reste toujours maître de lui-même, il domine son instrument et ne se laisse emporter ni par la fougue de l'âge, ni par celle de l'exécution. Voilà qui présage bien de la suite des événements. Mais à présent, avant de lancer vraiment sa carrière, comme tous les pianistes-compositeurs de cette époque, Gottschalk doit faire entendre sa propre musique. Il publie plusieurs pièces d'inspiration louisianaise. La savane, ballade créole, Le bananier, chanson nègre, Le Mancenillé, sérénade antillaise, et Bamboula, danse de nègre. « toutes les pièces créoles de Mauro Gottschalk sont accueillies avec une grande faveur. Bientôt publiées, elles se vendent comme des petits pains. Le jeune homme les joue et il est très bien accueilli par le public comme par les musiciens. Il se fait parmi eux quelques excellents amis. Antoine Marmontel le décrit ainsi. Nature élégante, distinguée, tout à fait aristocratique. Gottschalk, jeune, avait une grande analogie avec Chopin. Traits fins et réguliers, ovale allongé de la figure, regard doux, rêveur, cachet de mélancolie. Le moral répondait également à cette ressemblance physique. Impressionnabilité extrême, presque maladive, nature de sensitive, organisation d'élite. Gottschalk avait reçu une excellente éducation, parlait plusieurs langues et avait fortifié ses premières connaissances par des études sérieuses et faites avec conscience. À l'été 1850, il a alors 21 ans, Mauro Gottschalk joue avec beaucoup de succès en Suisse avant de se rendre en Espagne. Il est très apprécié de la reine Isabelle et sous son patronage, il devient l'idole du pays. On dit même que l'infante n'est pas insensible à son charme, à tel point qu'il est prié de partir au bout de 18 mois passés dans le pays. Il a eu le temps de parfaitement capter l'esprit des danses espagnoles qui l'entourent d'un écrin virtuose bien dans les canons de l'époque. Le père de Gottschalk a pensé qu'il fallait qu'il rentre aux États-Unis pour se faire un nom dans son pays, après avoir conquis l'Europe. Il arrive à New York début janvier 1853, il a 23 ans. Il va bientôt faire ses débuts en concert pour tenter de séduire ses compatriotes, ce qui s'avère moins facile que prévu. Le public est différent de ce qu'il était outre-Atlantique. Il va falloir s'adapter à ses goûts, qu'à cela ne tienne. Thank you. avec des pièces comme « The Dying Poet », le poète mourant, ou encore « The Last Hope », le dernier espoir, Mauro Gottschalk trouve une nouvelle veine sentimentale qui convient au public états-unien. La mort de son père est un coup dur pour lui, pas seulement sur le plan moral. Mauro se trouve à présent chef de famille. Il doit faire vivre sa famille et ses nombreux frères et sœurs, qui sont tous installés à Paris où il l'avait suivi. Il entame une série de tournées qui va durer 3 ans et qui lui feront sillonner les États-Unis du nord au sud et d'est en ouest. À l'ouest, il trouvera une certaine inspiration western, comme dans la pièce « Le banjo ». Au bout de 3 ans d'une vie de tournée harassante à travers les États-Unis, avec incursion jusqu'au Canada et à Cuba, Mauro Gottschalk n'en peut plus. Il part pour un engagement à La Havane pour une série de concerts partagés avec la toute jeune Adelina Patti, future star internationale alors âgée de 14 ans. Il va ensuite rester aux Antilles pendant 5 ans, entre Cuba, la Martinique, la Guadeloupe et Puerto Rico. Il se consacre davantage à la composition et il transforme le genre de la contredanse à la mode, un peu comme Chopin l'a fait avec la mazurka. Perché sur le bord d'un cratère, tout en haut de la montagne, raconte Gottschalk, ma petite maison avait vue sur tout le pays. Chaque soir, je transportais mon piano sur la terrasse et devant le plus beau panorama du monde, baigné de l'atmosphère sereine et limpide des tropiques, je jouais pour moi seul tout ce que cette scène m'inspirait. Je laissais mes doigts courir sur le clavier, rempli de la contemplation de ces merveilles. J'étais guéri de mes blessures, mon désespoir s'envolait. Et bientôt le soleil des tropiques, qui illumine toutes choses, les rêves comme les fruits, me rendait à ma vie vagabonde, fort et confiant. Que es más, no quiero tu canción, María. Ses années aux Antilles sont les plus fructueuses pour Mauro Gottschalk. C'est à cette époque qu'il compose sa symphonie « Nuit sous les tropiques ». Il passe aussi une année à La Havane comme chef d'orchestre et il fait jouer son opéra « Escenas Campestres », « Scène champêtre ». Pendant qu'il est dans les îles, la guerre de sécession a commencé. Gottschalk est un fervent unioniste et abolitionniste, quoique né dans le Sud. Un impresario le convainc de reprendre les tournées et c'est sur fond de guerre civile et de bataille qu'il sillonne à nouveau le pays. En 1865, à la suite d'une accusation plus tard révélée fausse dans une affaire de mœurs, il est obligé de quitter les États-Unis. Il passe ses 4 dernières années en Amérique du Sud, dans une tournée triomphale qui le mène de Panama à Lima, puis au Chili, à Valparaiso, Montevideo, Uruguay, enfin Buenos Aires, où il s'installe en 1867. Il joue alors un rôle très important pour développer là la musique classique. Il s'intéresse à l'éducation publique et il utilise ses concerts pour promouvoir le modèle républicain de vie civique et culturelle. Malgré la malaria qui le mine, il organise des concerts monstres jusqu'à sa mort en 1869, sans doute d'une overdose de quinine à 40 ans. Le deuxième mouvement de la symphonie romantique La Nuit des Tropiques de Louis Mauro Gottschalk, l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne dirigé par Igor Bouquetov. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Benjamin Vignal pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.